ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Monsieur Jean-Marie Fehrenbach, vous êtes le président de l'association des Amis de Radioprésence et vous êtes exégète biblique. Merci d'être venu. C'est la première séance de ce que j'appelle la série 4, c'est-à-dire c'est la quatrième année que cette émission fonctionne. Et ma foi, j'y crois, je me suis souvent présenté au cours des émissions comme un sociologue agnostique dans une radio catholique ou œcuménique. Je pense que je vous ai demandé de venir pour dire, ben oui, votre parcours de vie, votre parcours de foi, mais aussi vos responsabilités comme président de l'association. Merci d'être venu.
Merci de m'avoir invité, Benoît.
Oui, votre parcours est très riche. On ne sait pas par lequel commencer. Depuis votre naissance dans votre famille, et puis Louis le Grand, profession aéronautique au service de l'État. Et puis après, la licence de théologie, parce que vous aviez déjà fait un petit peu de grand séminaire, et vos responsabilités à la fois de téléenseignement biblique à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, et puis à l'IERP, ça fait beaucoup de choses, indépendamment du mandat municipal. Et puis, donc vous aimez voler, vous aimez, c'est toute votre profession. Et à côté de ça, je vais dire, ou en même temps, vos engagements avec les scouts d'Europe et avec votre famille, vous êtes grand-père plusieurs fois, 5 fois. Comment vous arrivez à tenir tout ça?
Je ne sais pas comment on peut faire, mais ça s'est fait, je dirais, un petit peu naturellement. Il y a peut-être une raison aussi profonde, c'est que j'ai le sentiment d'avoir reçu beaucoup, et donc d'avoir une obligation d'apporter aussi quelque chose.
Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, je crois que c'est Jésus qui nous dit ça. Vous êtes profondément engagé dans cette réflexion avec la Bible et avec l'Église.
Je crois qu'à l'origine, c'est sans doute le scoutisme qui m'en a fait prendre conscience quand j'étais petit garçon, pensionnaire en région parisienne, et où... Mon seul moment d'oxygène, c'était effectivement une activité de plein air avec, à l'époque, les scouts de France.
À donner sans compter, à combattre sans souci des blessures.
Oui, à mettre son honneur à mériter confiance.
Mériter confiance dans votre travail, je pense que pas seulement comme enseignant, mais à prendre des responsabilités par rapport à ceux qui travaillent dans l'aérospatial, ça ne devait pas être évident tous les jours, les conflits?
Non, d'autant plus que c'est un métier où on ne peut pas tricher et on est tous solidaires. C'est un métier assez passionnant de ce fait-là. Par exemple, il faut savoir que lorsqu'un mécanicien intervient sur un avion, à partir du moment où il y a 2 sièges dans l'avion, le premier vol après l'intervention, le mécanicien le fait aussi. C'est pour prendre conscience qu'on est tous absolument solidaires et quel que soit le niveau de technicité concerné, cette profession est très exigeante vis-à-vis de tous. Il y a des règles du jeu et je pense que si on a réussi à faire qu'aujourd'hui le niveau de sécurité transport aérien est quasiment celui des transports voies ferrées, c'est essentiellement parce que depuis une cinquantaine d'années, il y a eu un travail considérable de fait au niveau méthodologie, au niveau rigueur et au niveau technicité aussi.
La conduite des hommes, c'est plus difficile, c'est autre chose que la conduite des machines.
Oui, alors ça peut devenir facile à condition que les hommes avec qui vous travaillez, ou qui travaillent avec vous, soient aussi passionnés. Si vous travaillez avec des gens qui n'ont aucune passion dans leur métier, je pense que c'est très difficile. Mais la motivation est essentielle par rapport à l'exigence du travail.
Oui, mais ma foi, j'y crois. Si des personnes sont trop passionnées, peut-être qu'elles vont dire « moi j'ai raison » dans le couple, ou dans l'association, ou dans l'église. Et alors, il y a une autorité à un moment donné. qui doit tenir, alors, le mari, le père, pater familias, paternalisme, ou bien Monseigneur l'évêque ou l'archevêque. Vous voyez, je vous vois sourire parce que je sais que vous écrivez par ailleurs des lettres ouvertes, parfois.
Oui, ça m'arrive de réagir, si vous voulez, quand je me sens scandalisé par quelque chose. Bon, donc j'étais un petit peu un enfant terrible dans l'administration et j'aurais été encore plus dans l'Église, alors il valait mieux que j'y sois pas.
Au service de l'État, au service de l'Église, la notion de service, pour vous?
La notion de service, ça consiste à mettre ses compétences quand on en a, je crois, et sans gêner personne, si possible, donc de le faire avec un certain consensus, modestement.
Écouter, et puis prendre des décisions quand il le faut.
Et puis de temps en temps, ben oui, et puis assumer une responsabilité qu'on a prise, même si elle est un peu compliquée.
Oui, ça vous l'avez fait plusieurs fois dans votre vie, et d'ailleurs vous me rappeliez que
vous m'est même arrivé de désobéir en pensant avoir raison de désobéir, et l'histoire m'a prouvé que j'avais raison après, mais c'est quelquefois inconfortable d'être obligé de désobéir. Mais on peut être obligé de désobéir.
C'est en conscience, ma foi, j'y crois. Comme Luther, à un moment donné, comme Jésus par rapport à la loi, comme d'autres personnages. Vous avez des héros, comme je demande à tous ceux qui viennent sur cette antenne.
Alors là, si vous me demandez aujourd'hui qui j'ai dans la tête, la réaction immédiate, c'est le pape François. Je pense qu'il a tout compris. D'autres n'avaient pas forcément tout compris comme lui. Et il paye de sa personne d'une façon extraordinaire pour moi. Et il avait apporté beaucoup de choses depuis qu'il est à Rome.
Il est jésuite ou franciscain?
Ah, bonne question. Je pense qu'il est les deux.
Les deux. Oui. Alors, votre décision d'accepter, quand on vous a demandé d'être président de l'Association des Amis de Radio Présence, c'était en 2009. On ne va pas refaire l'histoire de la radio. On va regarder quand même un tout petit peu dans le rétroviseur, parce qu'il faut aussi, lorsqu'on va doubler une voiture, ou lorsqu'on va doubler ici des responsabilités de Radio Présence au niveau régional, se demander quelle est la fidélité de cette radio, on va dire, œcuménique.
Oui, en fait, si vous voulez, la fondation de cette association des amis, ça avait été un moment qui était un peu critique parce qu'il y avait un peu de flottement quand Benoît Pem a été obligé de quitter la direction en 2009. Et à cette époque-là, nous étions plusieurs membres du conseil d'administration de la radio à vouloir, je dirais, apporter encore notre présence, mais pas de l'intérieur, puisque nous avions eu du mal à nous faire comprendre. Bref, la situation avait été un peu compliquée et on a eu l'idée de faire ce que font beaucoup d'organismes qui sont un peu dans le même monde. Il y a les amis de l'Institut catholique, il y a les amis du musée Saint-Raymond, il y a beaucoup d'amis par rapport à des organismes comparables à la radio d'une certaine façon. Et ça n'existait pas et on s'est dit c'est sans doute la façon qui va nous permettre d'accompagner la radio, de lui rendre service si elle a besoin de nous, et même à la limite de nous assurer qu'elle continue à tourner comme tout le monde le souhaite, et en particulier les auditeurs, puisque cette association rassemble beaucoup d'auditeurs finalement, et d'auditeurs qui sont des soutiens de la radio bien engagés.
Et des personnes disent, nous ne pouvons plus aller à la messe parce que nous sommes relégués chez nous, ou bien nous avons la possibilité, en écoutant la voiture, d'écouter votre radio qui est très diversifiée. Je reviendrai peut-être sur ma position et sur cette émission, mais je crois que vous nous avez apporté justement un chant qui explique bien la modestie. C'est le petit joueur de flûteau
de notre ami Georges Brassens. Oui.
Voilà. Et en fait, vous l'accompagnez encore parfois à la guitare au coin du feu avec vos petits-enfants. Et vous disiez, ah oui, mais c'est difficile les arpèges et puis tous les accords. C'est tout un travail. Hein. Mais nous écoutons cette musique et cette philosophie de Georges Brassens.
Le petit joueur de flûteau menait la musique au château pour la grâce de ses chansons. Le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble,
répondit le croque-note, avec un blason à la clé. Mon lard se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Et mon pauvre petit clocher me semblerait trop à percher, je ne plierai plus les genoux devant le bon Dieu de chez nous. Il faudrait à ma grande âme tous les saints de Notre-Dame, avec un évêque à la clé, mon lard se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi. Je serai honte de mon sang, des aïeux de qui je descends, on me verrait bouder dessus la branche dont je suis issu. Je voudrais un magnifique arbre généalogique, avec du sang bleu à la clé. Mon lard se mettrait à gonfler, on dirait partout le pays, le joueur de flûte a trahi.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec M. Jean-Marie Fehrenbach, vous êtes le président de l'Association des Amis de Radioprésence et vous êtes aussi exégète biblique. Alors, nous avons compris cette humilité qui est la vôtre lorsque vous écoutez le petit joueur de Brassens, mais nous avons compris aussi que tenir une guitare, ça se travaille, c'est comme le manche, le gouvernail d'un avion, et vous avez 2000 heures de vol, je crois. Passionné.
Oui, ce qui pour un ingénieur est un nombre appréciable, puisque ça correspond à 10% à peu près de ce qu'a un pilote du monde commercial, transport commercial, en fin de carrière. Donc j'ai pas honte, si vous voulez, à titre d'ingénieur.
Et il y a des loupés, il y a des nuages, il y a des tempêtes, mais vous avez traversé tout ça, comme on va dire Saint-Exupéry ou bien d'autres, ici à Toulouse, ça donne sens. Et la Bible, pour vous, donne sens ?
Eh bien, la Bible, c'est une découverte que j'avais faite assez tôt au grand séminaire, mais je n'avais pas eu le temps de m'y mettre vraiment. Et quand j'ai pu, après ma retraite civile, si j'ose dire, m'y mettre à fond, ben évidemment, je me suis engagé très fortement, puisque je me suis retrouvé même sollicité pour faire de l'enseignement.
La faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, deux choses, vous m'avez dit tout à l'heure, les prophètes et saint Paul.
Il y a deux points qui m'ont particulièrement attiré, sur lesquels j'ai fait un travail personnel un peu original, et qui ont donné lieu à l'enseignement, parce que je crois qu'il faut être passionné pour enseigner. Difficile d'enseigner si on n'a pas la passion de ce qu'on veut enseigner. Ce sont effectivement d'abord la découverte que j'ai faite de l'engagement éthique et social des prophètes bibliques. Pensez qu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, à une époque où les grandes puissances de ce temps n'avaient aucune considération pour la personne humaine, eh bien on voit apparaître pratiquement dès le 8e siècle, avec le prophète Amos, on voit apparaître les droits de l'homme.
Oui.
C'est quelque chose d'assez étonnant. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et ils sont au total 7 prophètes scripturaires à avoir plus ou moins développé cette thématique, et d'une façon qui est toujours très concrète, qui n'est absolument pas un enseignement théorique, abstrait, mais qui correspond à la dénonciation de situations inacceptables sur le plan des droits de la personne.
Et aujourd'hui, c'est la laïcité, le fait qu'il n'y a pas d'idole, le fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « au nom de ma religion, il faut inciter l'État à modifier les lois ».
Il est vraisemblable que les prophètes réagiraient de la même façon. Oui, je crois.
Les lanceurs d'alerte.
Aujourd'hui encore, oui.
Eh bien oui, mais Jonas, lanceur d'alerte, il ne comprend pas. Dieu a converti Ninive avant même qu'il ait pu. Il fallait 3 jours pour traverser. Avant, au bout d'une journée, tout le monde est converti. Il est déprimé, ce lanceur d'alerte qu'est Jonas.
Oui, bon. Alors ce prophète mythique, effectivement, est un personnage assez étonnant. Je pense qu'il attire l'attention sur des points particuliers qui sont effectivement la confiance totale.
Il est dans le Coran.
Oui, il est dans le Coran aussi, absolument.
Oui. Alors saint Paul, ben, Paul de Tarse, alors, c'est Paul, pas pourquoi un
Paul,
saint.
C'est la deuxième chose qui m'a beaucoup attiré et fait travailler et approfondir, c'est ce que Paul dit, quelles sont les réponses qu'il donne à ses communautés quand elles l'interrogent sur la question comment peut-on ou doit-on vivre en chrétien, comment est-ce possible dans un monde païen? Car c'est une problématique qui est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est multiculturel et assez largement paganisé. Et finalement, comment vivre en chrétien dans ce monde aujourd'hui?
Oui, mais chrétien, c'est un mot d'aujourd'hui. On a fait un changement dans notre représentation du monde. Est-ce que Jésus savait qu'il était Christ? Est-ce que Jésus savait qu'il était Dieu? Alors Paul, ces représentations du monde. Le sociologue que je suis, justement, ou l'historien, va dire, mais c'est à quel moment il a fallu des conciles de Nicée pour dire Jésus, fils de Dieu, fils de Marie?
Bon, il a fallu attendre le 4e siècle pour que les conciles commencent à faire de la dogmatique. Et surtout à réunir les différentes visions que pouvaient avoir les différentes églises de l'époque.
Nicée-Constantine en latin, en grec, en araméen, jusqu'à Alexandrie. Donc les premières tensions avec Marcion. On ne va pas faire ici de la théologie, n'est-ce pas? Mais vous êtes interpellé.
Alors il se trouve que je m'intéresse beaucoup en ce moment, et ce sera le thème de travail de notre groupe de recherche de Fontgrive cette année, je dirais au tout premier temps des églises. Les tout premiers temps. Alors, on a des indices dans les textes des évangiles, les textes des lettres de Paul, les textes du Nouveau Testament général, et puis quelques textes qui sont à la charnière du 1er, 2e siècle, la lettre de Clément de Rome, par exemple, à l'église de Corinthe. Enfin, il y a deux, trois autres textes qui sont à la charnière, fin du 1er siècle, début du 2e siècle, et qui nous permettent d'avoir des indices sur comment les communautés, finalement, ont développé ce qu'est devenu le christianisme.
Christ est vivant, Christ est ressuscité, il est vivant aujourd'hui parmi nous, c'est ce qu'on dit à la messe.
C'est la grande affirmation, si vous voulez, que Paul met en avant par rapport à tout le reste. Mais même les évangiles qui sont écrits en fait en fin de siècle présentent des indices qui sont des indices de comment on vit dans les communautés, parce que ce sont des indices qui sont rattachés plus à un groupe que à ce qu'a dû être l'enseignement ou le vécu de Jésus lui-même. C'est passé à travers des filtres, déjà. Et c'est très intéressant parce qu'on sent les tout débuts de tout l'enracinement. Et c'est là qu'on découvre que le but de la mission, ce n'est pas de remplir les églises.
Le but de Radio Présence, c'est la transmission. Vous parliez de mission.
Oui.
C'est la communication.
Oui.
Et cette série, particulièrement, ma foi, j'y crois, je m'honore d'avoir demandé leur croyance à des musulmans soufis, chiites ou sunnites, d'avoir donné la parole à nos amis de la communauté ou des communautés juives, parce que nous nous sommes connus il y a très longtemps à l'amitié judéo-chrétienne. C'est aussi une autre corde à votre arc.
Exact.
Et donc, si cette radio a une grande liberté de parole, c'est à la fois pour laisser s'exprimer des sensibilités très différentes. Et vous en êtes le président des amis. Mais il n'y a pas de censure. Il y a un financement qui est compliqué parfois, peut-être, si on essaye de voir comment se feront les rapports avec Radio Maria ou RCF. C'est en cours.
Oui, alors là, ce sont des domaines dont je ne m'occupe pas parce que ce n'est pas dans mes missions du tout. Et puis, c'est compliqué et je crois qu'il faut laisser les responsables s'articuler entre eux.
Alors, vous nous avez apporté l'aria en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, qui est ce temps de prière, de pause, de poésie, au-delà des croyances, des engagements, des convictions des uns et des autres. Merci de l'avoir apporté. Thank you.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Jean-Marie Fehrenbach, vous nous avez apporté cet arié, cet aria en ré mineur. Dites-nous pourquoi, avec ce moment de pause, de silence et même peut-être de prière pour certains.
Mais c'est une pièce de Bach que j'aime beaucoup parce qu'elle m'avait notamment servi à sonoriser un diaporama que j'avais monté sur la découverte du ciel et qui m'a beaucoup servi pour les jeunes que j'accompagnais en préparation à leur confirmation. Il se trouve que c'était une façon, si vous voulez, de remplacer le ciel quand on ne pouvait pas le voir. Et j'avais, en tant qu'astronome amateur, collationné un certain nombre de choses assez belles, en diapositive à l'époque, que ce soit la comète de Halley, prise à La Réunion en 85, si je me souviens bien, ou que ce soit les éruptions solaires que j'avais dans ma poche, parce que j'avais aussi travaillé à l'observatoire de Meudon un certain temps, dans ma toute jeunesse. Bref, c'est une pièce qui m'avait paru très forte pour illustrer une initiation à la majesté du ciel, à son immensité, à sa beauté.
Le mystère, et en même temps, homme de Galilée, ne regardez plus dans le ciel des étoiles, mais mettez les pieds sur la terre.
Le mystère aussi de cette création qui nous a été offerte et qui est toujours un lieu de recherche passionnant aujourd'hui encore.
Et de la vie, la transmission de la vie et de la foi. Alors, vous me disiez l'importance, à partir de toutes ces années de votre vie, en regardant en arrière, le sentiment de confiance et de remerciement, la grâce qui a été donnée et qui se partage.
Si vous voulez, encore aujourd'hui, et surtout avec les soucis de santé que j'ai pu avoir depuis quelques mois, je me réveille chaque matin en disant « Baruch Adonai ». Béni soit le Seigneur.
Béni soit le Seigneur. Mais c'est une prière qui se fait dans l'intimité et qui se fait aussi en Église. Nous avons eu le synode à Toulouse. Il y a des débats dans l'Église. Chacun à sa place peut partager ses convictions. L'important, c'est cette paix, peut-être, lorsque l'autre en face de nous n'a pas ses positions par rapport au culte ou par rapport à la croyance. Et vous avez beaucoup fait de recherches. Mais l'homme simple, l'enfant, nous apprend autre chose. Il y a la foi, la raison, il y a le travail, et vous savez, communiquer, partager avec votre famille. Et dans cette radio, vous nous avez apporté, pour conclure cet entretien, une prière qui vous est chère.
Oui, je suis resté très fidèle à ma prière scout. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci les blessures, à travailler sans chercher le repos, à ne dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté.
Eh bien, merci.
C'est une prière d'Ignace de Loyola.
Oui. Merci Jean-Marie pour votre témoignage. Et puis nous allons demander à un esprit de raison, un esprit de sagesse que toutes les personnes qui vont venir cette année dans cette émission très ouverte puissent témoigner. L'expérience que j'ai des trois années précédentes, c'est que chaque personne est magnifique. Comme on dit dans le cantique, tout homme est une histoire sacrée. Et on ne peut que remercier quand on sait regarder le sourire de l'autre, regarder son regard. Parfois, il y a des sourires qui sont crispés, parfois il y a des regards de peur. Mais je pense qu'on peut dire merci à cette radio qui apporte ce moment de partage. Merci aussi à tous les techniciens et à Christophe qui fait l'enregistrement, parce que c'est un gros travail pour communiquer cette foi, cet engagement qui font de nous des hommes libres. Merci Christophe, merci Jean-Marie.